à plusieurs reprises dans le livre d'Ésaïe, Dieu compare les nations à des arbres. Des arbres qui souvent se sont enflammés, qui brûlent. Dieu compare les familles des peuples, les grandes de ce monde, à des cèdres et à des chênes qui sont souvent coupés, abattus. Dieu compare aussi la nation assyrienne, dont on a parlé la semaine dernière, à laquelle fait appel le roi Akaz pour sa défense. Hein. Il est menacé par deux petits royaumes au nord et est. Et là, il demande à l'Assyrie, cette grande puissance, de venir le secourir. Effectivement, elle va le secourir, mais après, elle va aussi le raser. Eh bien, cette nation est comparée à Assyrie, dans le chapitre 10, à une scie dans la main de l'Éternel, à une hache dans la main de l'Éternel qui va servir à abattre l'orgueilleuse Israël. Et aussi, cette propre nation, la Syrie, elle sera abattue à son tour à cause de son arrogance. Ce qui fait que, au moment où on va ouvrir ce chapitre 11, on est un peu comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le royaume de Syrie a été abattu. L'arbre tombé. Le royaume du Nord, Israël, a été abattu. Emmené en déportation. La Syrie elle-même, qui a massacré le royaume du Nord, le royaume du Sud, qui a massacré la Syrie, est à son tour abattu. Dans les versets 33 et 34 du chapitre 10, il dit « Voici le Seigneur, l'Éternel des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il renverse avec le fer les taillis de la forêt et le Liban tombe sous le puissant. » Voilà, tout est par terre, tout est détruit. C'est comme les forêts de l'Australie. Et puis regardez, chapitre 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Au milieu des temps de détresse que le peuple connaît et des jugements qui vont s'exercer sur son peuple et sur les nations, Ésaïe annonce de la part de Dieu un jour où les choses seront comme elles devraient être. L'assurance d'un monde meilleur. Comment cela va-t-il se produire? Eh bien, par la venue d'un Messie, le roi promis. Lisons les premiers versets. « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Ah oui, l'arbitre des nations, ça n'est pas l'ONU, mais c'est bien l'Éternel. Aussi grand, aussi bon que puissent être nos hommes, nos dirigeants, nos hommes politiques, les rois des nations, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas le caractère pour régner d'une manière juste sur la terre. Et c'est pour ça que nos cœurs aspirent à la venue d'un Messie qui puisse amener cela. On voit son origine dans le verset 1. Hein, il sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Et donc, c'est toute la descendance ici des rois d'Israël et de Juda qui a été abattue. Et la souche de Juda, c'est la lignée royale de David. Eh bien, il sortira un rejeton, le Messie. Le Messie accomplira la promesse de Dieu selon laquelle un descendant de David règnera éternellement. Un descendant de David qui règnera éternellement. Ça n'est pas un simple mortel comme vous et moi, comme tous ceux qui ont précédé. Notez qu'il est aussi présenté comme un rameau, comme un rejeton. Rien de très impressionnant a priori. Et pourtant, c'est lui qui accomplira le règne de paix. Dans le fameux chapitre 53 d'Ésaïe, versets 1 et 2, Ésaïe dira « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Voilà, ça c'est un roi différent que nous attendons. Un roi qui est tellement puissant, qui est tellement juste, sage, qu'il pourra instaurer sur toute la terre un règne de paix. Mais aussi, il est tellement humble. Et ça tranche tellement avec tous ses prédécesseurs. Et puis son caractère, vous avez remarqué, quand on parle de son caractère, c'est simplement on dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est comme si Dieu habite tellement parfaitement en lui. Il est chez lui, dans le Messie, il est parfaitement à l'aise. Et l'Esprit se manifeste. Visiblement, c'est difficile de diriger une nation. Le mois prochain, on va avoir des élections municipales. C'est tellement difficile de gérer une ville. Parfois, juste une petite commune, c'est tellement difficile. Alors, vous pensez, une nation ou la terre entière. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage, a dit le général de Gaulle. Mais oui, ça nécessite de la sagesse, ça nécessite de l'intelligence, ça nécessite de l'intégrité. Le Messie, il est parfait en sagesse et en intelligence. Ses plans sont parfaits, ses intentions sont parfaites. Il a dans son cœur la connaissance et la crainte de l'Éternel. Et toutes ces qualifications qui sont données par l'Esprit, eh bien, rendront le Messie capable de régner avec justice et efficacité. Et regardez aussi son activité dans les versets 3 à 5. Il juge selon la justice et non selon l'apparence. Nos juges ont besoin de témoins. Ils ont besoin de preuves pour se faire une opinion, pour se faire et prononcer un verdict, une sentence. Mais lui, il connaît toutes choses. Il sait. Même ce qui est au fond des cœurs. Il connaît nos pensées. Il voit dans le secret. Tout est nu et découvert à ses yeux. Aussi, lorsqu'il juge, c'est toujours avec équité. Et puis, j'aime les versets 4 et 5, où il parle de ce qu'il va restaurer la justice. Il réparera les dommages faits aux pauvres. Dans le chapitre 10, juste les premiers versets, il dit « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de son peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. » Vous voyez pourquoi Israël a été abattu par la Syrie. Il est en train de dire, mais malheur à vous, vous faites du mal aux plus faibles, vous abusez de votre pouvoir. Et c'est ce qui a provoqué la colère et le jugement de Dieu. Là, il dit que la justice va être restaurée. On va faire droit aux plus faibles. Est-ce qu'on n'aspire pas à cela? Depuis toujours, les puissants ont raison et les faibles ont tort. La Fontaine disait « Selon que vous serez puissant ou misérable ». Et quelque part, on aspire, on soupire après cette justice véritable. La justice, ce n'est pas simplement renoncer au mal, mais c'est aussi faire le bien et accorder l'aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est ce que fera le Seigneur. Mais alors, qui est ? J'ai un peu dévoilé la chose. Qui est ce Messie ? C'est un descendant de David, visiblement. mais qui n'aurait pas hérité de la nature pécheresse, de la corruption de la lignée de David. C'est celui dont on a déjà entendu parler, chapitre 9, celui qui est appelé un enfant, qui nous est né, un fils qui nous est donné, qui exercera l'autorité royale, que l'on appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Au moment où Jésus est apparu, il fut baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que les cieux s'ouvrirent et qu'une colombe est descendue, le Saint-Esprit descendant sous la forme d'une colombe et s'est reposé sur lui. Et puis une voix s'est fait entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh ! Qui est le Messie ? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Jésus échappe à la corruption du péché. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la synagogue et on lui remet le livre d'Ésaïe pour qu'il en fasse la lecture. Il trouve le passage d'Ésaïe 61 qui fait écho à notre passage ici en Ésaïe 11. Et puis il lit, et je vous lis ce passage dans le livre de l'Évangile de Luc, chapitre 4. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus lui-même s'identifie à celui qu'annonçait Ésaïe. Et ses œuvres en témoignent. On peut le dire, mais les yeux des aveugles se sont ouverts, les boiteux ont marché. Les pauvres ont entendu la bonne nouvelle. Enfin, Jésus le dit lui-même en Apocalypse chapitre 22. « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. » Voilà, nous soupirons après un monde meilleur. Mais il nous faut avant tout un roi meilleur, un roi qui soit capable de juger équitablement. Jésus est le seul digne de régner. Voyons à présent le royaume promis dans les chapitres, toujours chapitre 11, les versets 6 à 10. Regardez ce qu'il dit. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic ou dans le nid du cobra. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Et sa gloire sera sa demeure. Il y a quelque chose d'étonnant ici, n'est-ce pas ? C'est une transformation en profondeur de la création. Un monde qui est restauré. On dirait qu'on revient en Éden, du temps de Adam et Ève, avant qu'ils aient commis le péché, avant que la chute ait tout corrompu dans ce monde. Oui, les choses devraient être ainsi. Une nature en paix. L'harmonie, un monde dans lequel on n'a plus peur des serpents, vous imaginez ? Un monde dans lequel on peut jouer avec un lion, un monde où il ne se fait plus ni tort, ni dommage, un monde où on n'apprendra plus la guerre, plus de disputes. Waouh ! Et pourquoi et comment un grand chamboulement? Regardez ce qu'il dit au verset 9. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond des mers. Plus il y a de connaissance de Dieu, plus il y a de disposition à la paix. La connaissance de Dieu éteint le feu des querelles humaines, des animosités. Le Messie, il est appelé le prince de la paix. Alors quand il vient dans une vie, il y place sa paix, il y répand naturellement sa paix. Mais alors quand toutes ces choses vont avoir lieu? De quelle période le prophète parle ici? Une des difficultés dans les passages prophétiques de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a souvent plusieurs applications à une prophétie. Et on voit un petit peu comme sur cette image de cette ville-là. On sait bien que tous ces immeubles ne sont pas sur le même plan. On aurait du mal à dire quel est celui qui est le plus proche de nous, n'est-ce pas? Et on sait qu'il y en a qui sont derrière. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Nous, on voit d'une manière un peu confuse, comme cette ombre-là. On a du mal à voir toutes les applications de la vision prophétique. Si on compare ce passage d'Ésaïe 11 avec Ésaïe 65, le verset 25, on lit « Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni dommage, ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Alors, évidemment, là, on comprend qu'il est en train de parler en 65 et en 11 du même passage. C'est la même situation. Au chapitre 65, le verset 17, c'est le début de cette section, il est dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. » Beaucoup pensent, ou certains pensent, que le temps où il y a cette harmonie, eh bien ce sera ce temps de l'éternité, où toutes choses auront été restaurées. Mais regardez, au verset 20, toujours en Ésaïe 65, il est dit « Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Et là, on se dit « Mais dans l'éternité, il n'y aura pas de mort, il n'y aura plus de méchants. » Il semble que ce ne soit pas exactement l'éternité, le ciel comme on l'imagine. Aussi, en Ésaïe 4, la fin du verset, il dit « Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Ah, mais encore la mort ici. Et puis, il y a encore des méchants. Et donc, on pense que ces chapitres 65 et 11 ne semblent pas correspondre ni à notre âge, on voit bien que c'est pas ce qui se passe, ni à l'éternité. Peut-être ce serait un temps intermédiaire, un temps, un règne où les choses sont beaucoup plus glorieuses qu'aujourd'hui, bien que le péché, la rébellion, la mort ne soient pas encore totalement disparus. Beaucoup de théologiens ou les théologiens appellent ce temps intermédiaire, le millénium, un règne terrestre de Christ où des transformations profondes dans la création, dans la longévité s'opèrent et où le diable sera empêché d'agir. Sur ces questions de fin des temps, c'est difficile de toujours voir précisément. On voudrait avoir une approche humble et respectueuse des avis différents. Quoi qu'il en soit, nos regards se portent vers un règne du Messie. Et quoi qu'il en soit, ce règne sera total et parfait. Et toutes les nations se rangeront sous sa bannière, verset 10. On n'apprendra plus la guerre. C'est-à-dire que nos cœurs ne seront même plus disposés à ces choses. On aura été tellement transformés. on aspire à ce règne. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde sans peur? Un monde où il se fait plus d'injustice. Un monde où on n'a plus peur de la souffrance, de la mort. On n'a plus peur des séparations, des rivalités. Un monde où on n'a plus peur du rejet, de l'incompréhension, des voleurs ou des menteurs. Un monde qui n'a plus peur de l'avenir, de l'effondrement économique, du vieillissement, du coronavirus ou du cancer, du terrorisme. Nous soupirons après un tel monde, sans penser qu'il puisse un jour exister, parce que nous savons bien que tant qu'il y aura des hommes tels que nous, ce monde ne sera pas. Il faut qu'il y ait un changement intérieur. Il faut qu'il y ait une transformation de nos vies, de nos cœurs, en profondeur. Et c'est ce qui nous amène au chapitre 12. Regardez, je lis ces six versets. C'est un cantique. Tu diras en ce jour-là, même jour, hein, vous avez remarqué, en ce jour-là, verset 11, verset 10 du chapitre 11, et puis là encore, verset 1, verset 4, en ce jour-là, tu diras, « Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Quand Dieu va instaurer son royaume, il le fera d'une manière magistrale. Mais la chose qu'il est venu faire en premier lieu, c'est d'instaurer son royaume sur nos propres cœurs. Dieu ne promet pas simplement un nouveau roi et un nouveau royaume, mais il promet aussi de se faire un nouveau peuple. Vous avez remarqué verset 1, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. » C'est toute l'histoire de l'humanité ici, c'est l'évangile. L'homme s'est rébellé contre Dieu. Il rejette ses commandements, se soustrait à sa domination. Et puis, il s'égare, il provoque des injustices, des jalousies, des animosités. Il violente ses frères, les plus faibles de préférence. Et puis, ses voisins, les peuples voisins. Alors, la colère de Dieu devrait l'atteindre et le frapper, le ramener à lui. Mais le Messie, Jésus-Christ, paraît. Et il s'offre en rançon pour nous. Lui, le juste pour des injustes. Il est crucifié, portant la peine de nos péchés, et il ressuscite des morts. La justice de Dieu est satisfaite. Alors le pécheur est pardonné. Dieu le console et lui donne un nouveau cœur. Connaissant la grandeur de son amour et sa parfaite justice, alors le pécheur, pardonné, loue et place en lui toute sa confiance. Loue Dieu et place en lui toute sa confiance. Ceux qui chantent disent « Oh, je méritais la mort et c'est toi qui as payé. » Je m'incline et je t'adore en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. La route qui mène à ce monde meilleur, à la réconciliation des hommes entre eux et avec leur Créateur, cette destination à laquelle nous aspirons tous, passe par la croix de Jésus-Christ. On s'y présente tout seul, individuellement, pour trouver un nouveau cœur. Vous avez noté que le chant des versets 1 et 2 est à la première personne. Je te loue, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai pas, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est une démarche personnelle. Personne ne le fera à votre place. Vous seul, vous pouvez vous présenter devant Christ crucifié. Reconnaître que c'était à votre place, c'était pour vous qu'il mourait. Jésus est venu une première fois pour racheter un peuple. Et il reviendra pour instaurer son règne. Puis ce peuple des rachetés, tout s'est pardonné, ses vies changées, et chante dans les versets 4 à 6, l'assurance d'un monde meilleur. Vous avez remarqué, il dit là, et cette fois-ci c'est tous ensemble, le peuple rassemblé, vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre et pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Louez l'Éternel. L'assurance d'un monde meilleur à venir, rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ, nous pousse à louer Dieu pour la grandeur de son nom. Il a fait des choses magnifiques. C'est quand on les connaît pour soi-même, quand on reconnaît ce que Jésus-Christ a fait pour nous, que l'on peut vraiment célébrer Dieu de tout notre cœur, que notre louange monte à lui de tout notre cœur. Cette louange, elle nous pousse à le faire connaître à tous les peuples de la terre. C'est cela qui doit nous motiver dans l'œuvre missionnaire. Si vous soupirez après ce monde meilleur, reconnaissez que vous êtes une partie du problème du monde actuel, que vous avez besoin d'être transformé. Et puis, croyez en Jésus-Christ, qui a détourné la colère de Dieu sur lui par amour pour vous, et louez-le, remerciez-le d'un si grand amour. J'aimerais faire quelques applications encore qui découlent de l'assurance d'un monde meilleur. D'abord, je crois que si on a cette assurance d'un monde meilleur, d'un monde parfait à venir, eh bien nous pouvons nous réjouir en espérance. Réjouissons-nous dans cette espérance. Un jour, les choses seront véritablement comme nous savons qu'elles devraient être. La chose est certaine. L'éternité ne sera entachée d'aucune injustice. Cela devrait nous permettre de supporter les difficultés des temps présents que provoque notre nature pécheur, un monde déchu, une création soumise aux effets de la destruction, de la chute. Cela devrait nous faire aimer ce jour et patienter notamment les uns envers les autres. Nous savons avec assurance que le royaume de Dieu sera instauré. Mais d'une certaine manière, le royaume est déjà venu en Jésus-Christ. Par l'Évangile, le Saint-Esprit est disponible pour chaque croyant et il nous permet de connaître Dieu d'une manière qui transforme notre comportement. Cela nous devrait nous pousser à rechercher la conformité avec Christ. Puisque nous sommes animés du même esprit, que l'esprit qui est descendu sur Jésus-Christ est descendu sur les croyants, Pentecôte. Chez Christ, l'esprit est parfaitement à son aise pour se manifester pleinement. Chez nous, l'esprit est encore souvent attristé. Néanmoins, un jour, nous serons comme Christ. Et c'est pourquoi nous devons travailler dans cette direction. Enfin, l'apôtre Paul, il cite ce texte d'Ésaïe en Romains 15, verset 12, pour montrer que le dessein de Dieu a toujours été que toutes les nations de la terre se tournent vers lui. Et ça devrait nous encourager vraiment dans notre élan missionnaire, vers les nations en particulier qui n'ont jamais encore entendu le message de l'Évangile, qui n'ont pas d'accès à l'Évangile. Que la connaissance de l'Éternel remplisse nos cœurs, premièrement. et que cette connaissance produise dans nos cœurs une louange pour son nom. C'est l'adoration qui est le moteur de la mission. C'est-à-dire quand on est convaincu de la grandeur de notre Dieu, de sa puissance, de la grandeur de son amour, de sa passion pour les âmes. C'est ça qui va nous pousser à aller de l'avant et à parler à notre prochain et à célébrer Dieu autour de nous. La passion pour Dieu précède l'offre de Dieu dans la prédication ou dans le témoignage. Vous ne pouvez pas recommander ce que vous n'aimez pas. Si vous êtes passionné par Dieu, alors, quelles que soient les conversations, vous aurez une porte ouverte pour parler de lui. Vous avez déjà remarqué comment les gens parlent du Stade Toulousain ? Les fans, vous dites juste qu'il fait beau et ils enchaînent. Ben oui, ça va être super pour le match, on aura une bonne pelouse. Etc. C'est dans leur pensée, ça remplit leur cœur. Si la louange pour notre Dieu, si la connaissance de Dieu remplit nos cœurs, alors nous allons être passionnés par lui et vouloir le partager autour de nous. Là où la passion pour Dieu est faible, le zèle pour la mission est faible. Les églises qui ne sont pas centrées sur l'exaltation et de la majesté et de la beauté de Dieu auront difficilement le désir fervent de publier les œuvres parmi les peuples, de rappeler la grandeur de son nom, comme il est dit au verset 4. Quand on s'en réunit le dimanche, on est l'Église réunie. Tout le reste de la semaine, on est là un petit peu l'Église dispersée. Mais quand on est réunie, il y a cette possibilité-là de célébrer Dieu, de l'exalter, de réaliser à quel point il est grand. Quand vous vous réunissez en semaine avec quelques frères, vous partagez ce que Dieu a fait pour vous et ses merveilles. Et ça remplit aussi vos cœurs. Et vous exaltez votre Seigneur. Oh, que Dieu nous renouvelle, renouvelle nos cœurs en profondeur pour que nous nous émerveillions de sa personne, que nous attendions son royaume à venir et que nous célébrions sa gloire dès à présent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. Nos musiciens vont venir pour chanter un dernier chant et puis on va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voyons bien qu'il y a quelque chose de cassé dans notre monde. Quelque chose qui a été brisé à cause du péché. On voit bien que nous sommes en partie responsables du problème, Seigneur. Et nous te demandons vraiment de nous secourir. On te demande de travailler dans nos vies, Seigneur. Que ton royaume s'étende sur nos propres cœurs. Seigneur, on soupire après ce jour où il n'y aura plus de cancer, plus de guerre, plus d'attentats, plus de divorce, plus de haine. Plus de jalousie, de vol. On soupire après ce jour où tu vas instaurer ta justice parfaite, où tu régneras. Et Seigneur, on reconnaît que toi seul, tu es digne de régner. Toi seul est appelé le prince de la paix. Toi seul est digne, toi seul est capable, toi seul est tellement aimant pour prendre et embrasser toutes les nations et les mener juste à ta suite. Ô Seigneur, que dans notre Église, on puisse être animé de cette passion pour toi. Seigneur, je veux te prier aussi, pour ceux qui n'auraient pas cette assurance, qui n'ont jamais dit « Je te loue parce que tu étais irrité contre moi et ta colère a été détournée et tu m'as consolé. » Oh, s'il y a des gens qui ne peuvent pas dire une chose pareille aujourd'hui, je prie pour qu'elles puissent réaliser, Seigneur, leur besoin de toi. Et que pendant qu'on chante, puisse te louer eux aussi, se réconcilier avec toi par Jésus-Christ. Amen.